La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Ce soir, Philippe Chevillier et René Solis se font face à notre affiche Rêve et Folie, un texte de Georg Trakl, mis en scène par Claude Régis. C'est à Nanterre, aux Amandiers, dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Et puis Vania, d'après Oncle Vania de Tchekhov, mise en scène Julie Deliquet au Théâtre du Vieux Colombier pour la Comédie Française. Nous évoquerons aussi plus rapidement l'Interlope Cabaret, et mise en scène par Serge Bagdasarian au Studio Théâtre de la Comédie Française également. Et puis Cartographie, l'Atlas de l'Anthropocène, mise en scène et interprétation de Frédéric Ferrer au Théâtre du Rond-Point. Vers 21h20, nous retrouverons Lucille Comeau dans le Petit Salon pour débattre d'un sujet dans l'actualité culturelle. Et en fin d'émission, elle passera un coup de fil à Stéphane Caegui pour parler du nouveau spectacle, nouvelle proposition de Rimini Protocol. Des cadeaux à gagner grâce au jeu de dispute. Ce soir, des invitations pour l'exposition Yann Fabre Stigmata, Action et Performance 1976-2016. C'est au Musée d'Art Contemporain de Lyon. Et nous ouvrons cette émission, nous rendons au Vieux Colombier, l'une des trois salles de la Comédie Française, pour y découvrir le travail réalisé par Julie Deliquet, jeune metteur en scène, remarquée pour son travail au sein du collectif In Vitro. Et Julie Deliquet, que l'administrateur du Français Eric Ruff a donc invité à travailler, cette fois avec les comédiens de la grande troupe. Julie Deliquet a choisi Oncle Vania de Tchekhov et en propose une adaptation, je trouve, très fidèle dans l'esprit, légèrement moins dans la lettre, on va en parler. Il s'agit toujours d'observer comment l'arrivée du professeur Serebrakov et de sa jeune épouse dans la maison familiale va semer le trouble. Vania, sa mère, sa nièce, ayant depuis des années tout fait pour que l'intellectuel de la famille soit dispensé de tout problème concret.
Et le professeur, le professeur, c'est toujours pareil. Du matin jusqu'à très tard, le soir, la nuit, il écrit. L'esprit tendu, le front plissé, écrivons, écrivons des poèmes. Et de louanges ne recevez ni pour vos écrits, ni pour vous-même. Pour papier, il ferait mieux d'écrire son autobiographie. Un professeur à la retraite, tu saisis ? Une vieille croûte, une morue s'abandonne.
Ah, merde !
Non, mais attends.
Il est malade ou...
Il a des migraines.
Ouais.
Il a... le foie gonflé par la jalousie et par l'envie.
Non, mais attends,
cette morue-là, dans la maison de sa première femme, ma sœur, parce que vivre en ville n'est pas dans ses moyens, hein, il trouve qu'il n'a pas de chance, alors qu'en fait, il est extraordinairement chanceux. T'imagines un peu la chance, ce séminariste, fils d'un simple aumônier, il a gravi tous les échelons dans ses études, il est devenu son excellence, il a obtenu une chaire à l'université, le gendre d'un sénateur. Enfin bon, etc. Tout ça n'a aucune importance, mais écoute-moi ça. Un homme qui écrit depuis 25 ans sur l'art sans strictement rien comprendre à l'art.
Ah, merde !
Ouais, 25 ans qu'il ressasse des idées qui ne sont pas les siennes sur le naturalisme, le réalisme et autres absurdités. Ça veut dire que pendant 25 ans, il a transvasé du vide dans du vide. Et t'as vu la vanité, la prétention ? Le voilà bientôt à la retraite et personne ne le connaît, il est absolument inconnu. Ça veut dire que pendant 25 ans, il a occupé une place qui n'était pas la sienne. Et t'as vu comme il se pavane, comme un milieu.
Mes amis, je vais finir un article dans ma chambre.
Il est
jaloux.
Oui, je suis jaloux.
Vania, en ce moment au Vieux Colombier. Philippe Chevillier, pour commencer.
Bien, moi j'étais beaucoup touché par ce spectacle. D'abord, ça dure 1h45 et à la fin, j'ai eu l'impression que j'avais vu toute la pièce, alors que finalement, elle a quand même été pratiquement réduite de moitié, avec en plus des ajouts, puisqu'on est même dans une séance de ciné-club à un moment donné dans la pièce. Une adaptation, mais qui m'a paru extrêmement fidèle. Et puis, l'autre élément qui m'a frappé, c'est une espèce d'électricité qu'il y avait dans la salle. C'est le soir de première, c'est pas toujours évident, où on sentait une émotion palpable très vite et à la fin du spectacle. Et alors moi, je pense que... Pourquoi ce succès? Pourquoi on est touché? C'est pas révolutionnaire au fond ce qu'elle nous fait, Julie Deliquet. On a une table au milieu, on en a vu d'autres spectacles avec une table au milieu, on a un dispositif bifrontal.
Donc des spectateurs de chaque côté.
Spectateurs de chaque côté, certains sur des gradins. Bon, certes, au Vieux-Colombier, c'est pas tous les jours, mais bon, c'est pas quand même révolutionnaire. Ce qui m'a frappé, c'est en fait que j'ai eu l'impression qu'il y avait une greffe qui se faisait entre le théâtre de plateau que représente les théâtres collectifs que représente Julie Deliquet et les comédiens français. Et que pendant longtemps, on s'est dit, faire venir de jeunes metteurs en scène de collectifs, ça va pas marcher. Et là, ça fonctionne. C'est-à-dire que, à la fois, ils sont dirigés et en même temps, ils expriment peut-être un petit peu plus de spontanéité, de vérité que parfois dans des exercices plus imposés ou disons plus traditionnels. Et je pense que c'est moi j'ai en tête le souvenir de Tejestan qui était venu aussi au Vieux-Colombier faire une adaptation. Je crois que c'était Les Estivants. Mm-hmm. C'était un peu laboratoire, c'était sympathique, mais c'était pas réussi. Mm-hmm. Là, on a vraiment cette sensation que la greffe a prise. Et alors. Moi, j'ai été absolument bouleversé par Laurent Socaire, qui est un acteur que j'aime beaucoup.
Et qui joue Vania.
Qui joue Oncle Vania, qui d'un seul coup donne à la fois cette image comique et pathétique au personnage, qui joue complètement dans cette spontanéité, dans ce théâtre très, très spontané. Et puis chacun joue sa partition, c'est-à-dire que c'est pas non plus, c'est pas là. Évidemment, Glovania, c'est le rôle titre, mais les autres personnages ont tous une existence très forte, on en reparlera sans doute, puisqu'il y a à la fois des révélations parmi les comédiens moins connus, d'autres qui ont des rôles un peu décalés, comme Dominique Blanc, et j'ai trouvé que ça prenait et que du coup, alors après, on est plongé dans ce Tchekhov qui est plus très russe parce qu'elle a gommé un petit peu les aspects russes, mais qui nous parle, bon, parce que c'est une œuvre éternelle, et puis qui nous parle d'aujourd'hui aussi, le vieux monde, les familles qui se déchirent, le monde agricole, etc., etc.
La condition de la femme.
La condition de la femme, oui.
Aussi. Notamment. Mais bon, ça c'était pour l'introduction de Philippe Chevillier. René Solis.
Oui, alors je suis d'accord avec beaucoup de choses que vient de dire Philippe Chevillier. D'abord, effectivement, ça va vite. Il y a un côté même un peu speedé, assez étonnant. C'est du Tchekhov qui fonce. C'est du Tchekhov dont la dimension comique est aussi complètement assumée et soulignée, ce qui n'est pas toujours évident. Elle est présente quand même souvent dans Tchekhov, et plus souvent que ce qu'on en voit souvent, parce que justement, les metteurs en scène sont pas très sensibles en général à la dimension comique de Tchekhov. Là, on l'entend très bien et c'est bien. Donc, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien. Et puis, c'est vrai sur les acteurs. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a quelque chose qui fonctionne sur les parties prises, comme ça, cette espèce de spontanéité plus ou moins travaillée. Mais vous avez raison de citer Tejestan. Enfin, il y a eu tout un mouvement de théâtre de plateau. Et tout d'un coup, effectivement, ça arrive à la Comédie Française. Et il y a, un coup de jeune. Il y a quelque chose qui fait que on est dans une espèce d'immédiateté qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir au français. C'est vrai que le français, on a souvent quand même l'idée l'image d'un conservatoire, de quelque chose du bon jeu et de la bonne diction, avec tout ce que ça peut avoir aussi d'un tout petit peu guindé ou d'un peu étouffé. Et là, tout d'un coup, c'est comme si, on n'est plus tellement au théâtre français, on est un peu on serait presque au théâtre anglais d'ailleurs, parce qu'il y a une façon de jouer l'immédiateté de la situation comme ça, que les acteurs anglais font très bien et que les acteurs français ont souvent beaucoup plus de mal à le faire. Et là, comme ils sont bons, quand même, les acteurs du français, ça on le sait, ils le font, ça marche, il y a quelque chose de la chimie qui marche. Alors après, on peut discuter sur les certains partis pris, il y a une cohérence sur l'adaptation, le fait que oui, le ciné-club, ou bien à un moment, je sais pas, il ressemble à Peter Ustinov dans
Mort sur le Nil,
Sergei Belenkov fume non pas la cigarette mais une cigarette électronique, enfin comme ça, il y a plein de clins d'œil qui sont pas tous forcément très intéressant en fait, mais qui ont une cohérence enfin avec le parti pris. Donc il y a quelque chose qui fonctionne. Et puis vous avez parlé de la table, et effectivement c'est très intéressant cette histoire de table, parce qu'il y a beaucoup de ces jeunes collectifs, compagnies des 10 dernières années qui ont fait de la table non seulement un élément scénographique central, mais même presque un manifeste de théâtre autour de la table. Et là on retrouve ça, et Julie Deliquet, elle a déjà fait ça, c'est-à-dire la trilogie qu'elle avait faite sur des années 70 à nos jours, avec, d'ailleurs pas des... Je sais plus comment ça s'appelait.
Alors, il faut que je retrouve le titre aussi que j'oublie.
La noce. Il y avait La noce de Brecht, il y avait La garce, dernier roman avant l'oubli, et il y avait le troisième qui était une création collective. Et les trois, le point commun entre les trois pièces était la table. Ils étaient autour de la table. Puis on a retrouvé ça chez Sylvain Creusevaux. Voilà, il y a vraiment cet élément-là. Et donc, cette espèce de d'immédiateté d'une histoire de famille autour de la table, effectivement, elle arrive à redonner à Vania une espèce de quelque chose d'incroyablement familier. Et ça, c'est plutôt bien réussi.
Bon, et René Solis nous a battu en espèces ce soir, Philippe Chevillier, parce qu'il en a déjà une bonne demi-douzaine à son actif. On va le décompter, hein, maintenant, c'est comme cela.
J'ai le droit à un ou deux, alors.
Ça s'est retranché sur votre quota. Mais c'est vrai que, quand même, déjà, de dire qu'effectivement, la comédie française est quand même dans une mue intéressante, qu'on avait déjà vu commencer l'an dernier avec le spectacle qui avait ouvert quasiment la saison Comme une pierre qui, au studio théâtre, sur cette session d'enregistrement de Bob Dylan, et c'est un spectacle qui est en tournée toute cette saison, et vraiment que je recommande très chaleureusement aux celles et ceux qui pourront voir ça près de chez eux. C'est un spectacle qui donnait aussi beaucoup d'air frais à la comédie française. Alors certes, c'était aussi au théâtre qui est quand même le lieu d'expérimentation depuis de longues années déjà. On parlera tout à l'heure du cabaret Interlope de Serge Bagdassarian, je n'ai pas encore vu. Quoi qu'on en pense, et les damnés, on en parlera la semaine prochaine dans cette émission, n'est-ce pas, Lucille Comeau, qui lève les yeux au ciel. C'est quand même aussi quelque chose de très différent de ce qu'on a pu voir précédemment à la Comédie Française. Donc ça, c'est aussi en ce moment ça le Richelieu. Voilà, tout ça pour dire que dans cette maison, en tout cas, on essaye des choses, on fait venir des gens très différents, et que ça, c'est vraiment formidable, parce que, et sans doute, d'abord en premier lieu pour nos spectateurs, mais aussi pour les comédiens, parce que on a parlé de Laurence Stocker. Moi, j'avoue que j'étais très sensible à cette adaptation de Julie Deniquet, parce que j'ai même failli pleurer à ce qui est plus rare au théâtre qu'au cinéma ou qu'en littérature. Mais la dernière scène entre Laurence Stocker et Florence Viala, qui est aussi une actrice que j'idolâtre vraiment, a failli me tirer les larmes. Il y a quand même une émotion très 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 fine qui se joue là. Citer le reste de la redistribution tout de suite, comme ça ce sera fait. Hervé Pierre, donc, qui est Serebriakov, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu aussi bien et aussi à son aise, et je le trouve vraiment qu'il apporte quelque chose de très beau dans cette adaptation. Stéphane Varupen, qui est le médecin qui fait battre tant de cœurs. Noam Morgenstern, voilà un rôle très compliqué, hein, puisque c'est l'ancien propriétaire qui est complètement déclassé aujourd'hui. J'oublie toujours son nom, hein, c'est Tielieguin, je ne sais jamais comment on dit cela. Très peu de texte, surtout dans cette adaptation, et une présence d'une justesse à chaque fois, vraiment. Et en même temps, dans chacune de ses répliques, c'est à la fois beaucoup d'humour et beaucoup d'émotion. C'est un personnage qui est pathétique et attachant. C'est un personnage, je trouve qu'il a qui est d'une richesse, vu par Julie Deluquet et interprété par Noam Morgenstern, qui m'a vraiment frappé. Anna Servinka, ça fait un moment qu'on l'a repérée, elle qui joue Sofia, et il y a toujours une jeune fille malheureuse, hein, chez Tchekhov, et elle aussi, elle est absolument bouleversante. Dominique Blanc, on va dire, presque à contre-emploi pour un rôle qui est souvent négligé, le rôle de la mère de Vania, qui a une place tout à fait singulière dans cette adaptation. Et le bifrontal, c'est vrai, alors presque mécaniquement amène une plus grande proximité de la plupart des spectateurs avec les interprètes, et en même temps beaucoup de circulation dans l'espace. Et c'est un bifrontal, on est souvent gêné au bifrontal parce que tantôt ça joue dos à nous, tantôt face à nous. Là, je ne sais pas si c'est du travail, mais il y a une telle fluidité qu'on a toujours l'impression qu'ils sont toujours tous en train de s'adresser à nous, alors que forcément, il y en a autant pour les spectateurs d'en face. Ça, c'est vraiment du travail, c'est de la précision, mais je crois que c'est vraiment important de souligner que c'est un spectacle où il n'y a pas de second rôle, où il y a cette adaptation, vous en parliez au tout début, Philippe Chevillier, qui pour moi est loin de trahir ou de s'affranchir de Tchekhov, restitue ce qui est l'essence même du texte. Alors peut-être qu'on perd en Russie, mais on gagne en universel. et cette pertinence du bifrontal. Pour moi, vraiment, c'est plus j'y pense. Moi, j'ai vu ce spectacle, ça faisait une semaine, je crois, qu'il avait commencé à être donné au Vieux Colombier. Plus j'y pense et plus il se bonifie dans mon esprit. J'y trouve vraiment de plus en plus de qualité à mesure que j'y pense. Est-ce que c'est votre cas, René Solis?
Alors, bon, je vais quand même...
un peu d'eau oui, tiède ou froide.
Quelques réserves. Allez. Ça, bon. Non, je trouve que c'est effectivement plutôt extrêmement réussi et très séduisant. Je suis complètement d'accord avec vous sur Noam Morgenstern, qui est vraiment formidable, parce que c'est une espèce de pardon, ça y est, c'est un rôle de presque d'ange qu'il a, c'est-à-dire qu'il est dans le silence presque en permanence, en même temps il est tout le temps là, tout le temps, bon, et effectivement il apporte à ce rôle une sorte de poésie et de quelque chose de mélancolique en même temps, qui est d'ailleurs une coloration qui peut-être moi me manque un peu malgré tout dans le spectacle, c'est-à-dire que il y a une part de quand même du tragique, des choses beaucoup plus noires qui sont un tout petit peu, non pas évacuées, mais peut-être mises en arrière-plan. Et du coup, des fois, je me dis, mais bon, j'aimerais bien m'arrêter un peu. C'est-à-dire que la vitesse est pas en soi rédhibitoire, loin de là. Mais il y a des moments où quand même, et dans Vania en particulier, j'aurais besoin d'un peu plus de silence. Je pense qu'on va parler du silence tout à l'heure.
Avec Claude Rézé, oui.
Vous pouvez pas imaginer deux spectacles de ce point de vue-là plus différents dans leur rythme. Et que donc, il y a quelque chose qui me manque. Et d'autre part, je trouve que oui, il y a ce jeu des comédiens, cette immédiateté. Le défaut, le danger peut-être éventuel qui pourrait poindre, je dis pas que c'est le cas, mais c'est qu'il y a une espèce de facilité des choses, moi, qui me fait penser un peu à la façon dont certaines bonnes séries télé sont faites. C'est-à-dire qu'il y a que ça, cette immédiateté, c'est juste, ils sont bons, ça va vite et tout. Mais il me manque quelque chose, c'est-à-dire que je reste un pas en deçà de vous de ce point de vue-là, c'est-à-dire que dans mon souvenir, je trouve que c'est plutôt très réussi, très cohérent, voilà, je suis aussi très content de voir que la comédie française change et que les comédiens sont confrontés à d'autres choses, mais voilà, j'ai
c'est au détriment peut-être d'une forme d'intensité ou de densité,
voilà, c'est-à-dire que
qui est présente dans le texte d'origine, dans le texte, mais
que
pas forcément
cette espèce de vitesse et de voilà qui est très agréable masque peut-être quand même un peu un manque de profondeur par moment, voilà. Donc ce serait ça peut-être le danger qui guette.
Ouais.
Voilà.
Philippe Chevillier.
Moi, je pense que l'intensité, non, elle est là, mais c'est vrai que c'est la rapidité qui fait qu'on n'a pas ces fameux silences dont on va peut-être reparler. Mais en même temps,
il y en a quand même,
et je trouve que la façon dont les personnages sont incarnés, il y a en même temps beaucoup de mystère en eux. C'est vrai qu'on parlait on parlait du personnage de Telly Egin. Il y a son mystère et même une ouverture nouvelle sur le personnage. Dominique Blanc, qui joue le rôle de la mère, qui est souvent un rôle un peu ingrat, donne une dimension un peu poétique au personnage. Alors tout ça, c'est ébauché. C'est vrai que ça va vite, donc c'est un peu ébauché et qu'on va pas jusqu'au bout, mais on le pressent. Et Florence Viala, dans ce rôle de séductrice un peu malgré elle, avec le poids de ce que ça représente, et je trouve qu'elle a des moments de mélancolie qui sont quand même assez forts. Mais c'est sûr que je pense que la profondeur ou le tragique est plus porté finalement par Stoker dans Ivan qui et puis quand même un petit peu
par Anna Servinka,
oui, aussi
quand même,
ouais.
Mais c'est vrai que Florence Viala et Laurent Stoker sur la fin il y a quand même un moment où tout d'un coup il y a cette densité et ce drame, ce tragique là de l'existence qui appare quand même dans cette production qu'on recommande très chaleureusement. Alors on n'a pas dit, mais parce qu'il faut laisser quelques surprises, il y a une séance de ciné-club. On va dire que c'est derrière, mais on va d'autant plus le dire qu'il se trouve qu'il y a une rétrospective qui ouvre la Cinémathèque française, consacrée au cinéaste Carl Theodor Dreyer. C'est du 12 octobre au 6 novembre. Donc voir Dreyer sur grand écran, c'est un plaisir dont il ne faut pas se priver.
Et pourquoi Dreyer, au fait, dans Vania? Je ne suis pas sûr d'avoir compris le rapport entre Dreyer et le... Pourquoi elle a choisi
Pourquoi
ça
vampire, plutôt que, oui. Serebryakov, comme vampire de la famille.
Ah oui, oui, oui. Bon, ouais. Oui.
Pourquoi je sais pas, c'est peut-être très simple aussi. Oui. Et c'est peut-être l'envie de partager ce goût pour Dreyer.
Oui, tout simplement, après tout, oui.
Ce qui est plutôt un très bon goût. C'est pour ça que je signale aussi cette rétrospective à la Cinémathèque française. Vania, d'après Oncle Vania d'Anton Tchekhov, mise en scène et l'adaptation, donc Julie Deliquet, au Théâtre du Vieux Colombier, à la Comédie Française. C'est jusqu'au 6 novembre.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de Claude Régis, donc, mais aussi de Frédéric Ferrer, de Serge Bagdassarian. On voit que le programme est vraiment très éclectique ce soir. Avant cela, nous suivons Lucille Comeau dans Le Petit Salon. Alors nous y entrons en musique chaque soir. Là, il faudrait peut-être enlever nos chaussures, peut-être mettre des charentaises pour rentrer tout doucement dans le petit salon.
Comme ici, pour rentrer dans la salle quand on assiste à un spectacle de Claude Régis. Parce que quand on entre dans la salle pour assister à un spectacle de Claude Régis, on nous demande de faire silence. Lorsque j'avais vu son précédent spectacle intérieur d'après Maeterlinck, c'était à la Maison du Japon. On nous avait fait attendre un temps qui m'avait paru fort long devant la salle, rangés contre le mur comme des enfants qui s'apprêtent à entrer en classe. Et on nous avait demandé de faire silence bien avant de même pénétrer dans la salle. Alors cette fois-ci, à Nanterre-Amandier, la tactique des ouvreurs était différente. Au moment d'entrer, l'ouvreuse nous glisse « Le spectacle ne commencera pas tant que le silence ne sera pas complet ». Alors autre forme, même effet, on n'est pas très loin de la consigne scolaire, mais version chantage. Alors de fait, tout le monde fait silence et le public reste tranquille dans une pénombre quasi complète jusqu'à ce que tous les spectateurs soient installés. Et que le spectacle commence. À ma connaissance, Claude Régis est le seul metteur en scène qui exige une telle assaise de son public. Cette entrée bouleverse profondément le rapport à l'œuvre à laquelle on va assister, puisque le spectacle s'apparente alors à une sorte de cérémonie. Il y a un temps de dépouillement nécessaire avant le spectacle, qui procure une solennité rare à la salle, et instaure un rapport entre salle et scène particulier du domaine du respect. Ça bouleverse également le statut même de la sortie théâtrale et du lieu théâtre. Le théâtre est historiquement un lieu de sociabilité et de mondanité. Il suffit de lire des comptes rendus de spectacles ou des romans du 19e siècle pour que le cliché éclate. Le spectacle est aussi dans la salle. L'entrée au théâtre est un moment privilégié pour s'observer, pour se parler, pour intriguer, pour parler de la pièce à venir ou de toute autre chose, de ses voisins, de ceux qui ne sont pas venus. Les théâtres contemporains ont d'ailleurs intégré cette dimension à leur architecture. Au théâtre des Amandiers, par exemple, on peut boire un coup, on peut manger un morceau avant d'entrer au spectacle. Le restaurant est toujours plein et le hall plein de bruit. De nombreux metteurs en scène exploitent cette dimension profondément festive et bruyante de l'entrée en salle. Je m'étouffe. Que l'on pense à Vincent Macaigne, dont la musique du dernier spectacle se déversait jusque sur le trottoir. Et si je me souviens bien, les comédiens venaient à la rencontre des spectateurs pour les inviter à entrer dans ce qui s'apparentait à une sorte de boîte de nuit où on dansait, où on parlait, où on restait debout longtemps. Tout l'inverse du dépouillement et de l'assaise des spectacles de Claude Régis. Alors vous, comment supportez-vous ce silence?
Ah oui, c'est vrai que Mackenzie était avec des mégaphones aussi qui venaient chercher les spectateurs dans le hall. Le silence.
Alors, René Solis. Oui, sur Régis, alors très franchement, moi qui suis plutôt. En général, beaucoup les spectacles de Régis. Ce côté-là m'a toujours un peu agacé et j'ai toujours, j'ai toujours eu envie de le titiller un peu là-dessus parce que le côté de la cérémonie m'ennuie et je déteste qu'on me dise de me taire. Je déteste qu'on me traite comme un enfant. C'est vrai que vous l'avez relevé en termes de très juste. Il y a un côté comme ça, on se range devant la salle et surtout ne pas broncher. Et donc moi, c'est complètement contraire à tout ce que je crois, à tout ce que je suis et puis à tout ce que j'aime au théâtre. Donc cette mise en condition là m'a toujours semblé d'une certaine façon excessive et inutile. Je n'ai jamais pensé que c'était indispensable au spectacle de Régis. Et je pense qu'ils sont largement assez forts pour que, je veux dire, le silence, il se fait de façon évidente. Et puis, non, ça crée même quelquefois des effets presque pervers. C'est-à-dire que, du coup, on bouge une fesse sur son fauteuil et le voisin d'à côté vous dit chute. Enfin, ouais. Moi, j'ai assisté comme ça à des moments presque pénibles où quelqu'un tousse et à ce moment-là, oui, il y a 5 personnes qui enchaînent des chutes aussi. Ça devient presque un peu ridicule, quoi. Donc, ce côté-là, cette mise en condition là de Régis, moi, m'a toujours laissé dubitatif.
Philippe Chevillier, pour vous.
Alors moi, j'étais derrière Claude Régis pour la première, donc j'étais vraiment très calme et très sage. Mais alors bon,
c'est la meilleure place. Il y a ça aussi.
Parce qu'il est toujours présent.
Bien sûr, il est présent à toutes les représentations.
Toutes les représentations. à la meilleure place, donc il faut se mettre juste derrière lui, en effet.
Moi, j'ai essayé de faire la synthèse. Je reconnais que c'est pas mal d'avoir un petit sas avant le spectacle pour pouvoir un petit peu, justement, se vider de tout ce qui est extérieur. Ce que je trouve bête, c'est le silence dans le hall. Et il y avait une dame, je me souviens, je crois que c'était à Veden, qui m'a expliqué que l'an dernier, les gens étaient obligés, en plein cagnard, en attendant d'entrer, de se taire. Et du coup, on a envie de parler dès qu'on est dans la salle. Alors donc déjà, le fait que ça soit dans la salle, c'est déjà un peu mieux. Et puis, il y a une question de pédagogie. Au lieu de dire, les pauvres placistes, ils peuvent pas tout... Voilà. Mais il faudrait qu'ils puissent dire, c'est pas Monsieur Régis qui veut, mais c'est mieux pour le spectacle. Enfin, qu'on explique un petit peu aux gens ou qu'on leur donne un petit peu une justification du silence avant. Et c'est vrai ce que vous disiez sur le bruit, qui est l'inverse du silence. Moi, je suis allé donc voir le Bob Wilson qui commence le dernier. Il ouvre les portes et on a déjà la musique qui tonne. Et ça pose la question de l'entrée dans un spectacle et de comment il y a 10 minutes qui sont souvent délicates pour l'entrée dans un spectacle. Parfois, au bout de 10 minutes, on a envie de partir, mais ça, c'est autre chose. Et ces 10 minutes, comment on les gère? On peut les gérer par une image très forte et on peut les gérer par une atmosphère. Peut-être justement ce que disait René sur un spectacle de Régis, c'est suffisamment fort pour vous permettre de déconnecter immédiatement. Bon, c'est lui, c'est le créateur qui le veut.
Est-ce qu'on en est sûr de ça? Parce que c'est vrai que ça plonge quand même dans un état. Déjà, on a peu l'habitude aujourd'hui que ça change rien. Parce que quand même, c'est très particulier l'état dans lequel ça met l'état mental. Moi, personnellement, ça me met dans un état d'angoisse profonde. Du coup, forcément, ça change la perception du spectacle.
Moi, d'agacement.
D'être dans
un silence collectif.
Ouais. À la fois isolant et en même temps dans le collectif, je trouve ça extrêmement troublant.
Moi, j'ai fermé les yeux la dernière fois. J'ai trouvé que c'était pas mal pendant 2-3 minutes et du coup.
Oui, alors peut-être plusieurs choses. Dire qu'effectivement, pour intérieur, le précédent spectacle, que ce soit à Avignon du Japon ou à Avignon, c'est vrai qu'on était, mais à Avignon, on était vraiment invectivés dans le hall par le régisseur, je pense, du lieu où se déroulait le spectacle, où effectivement Claude Régis exige que vous vous taisiez dans le hall. Enfin bon, c'était vraiment particulièrement pénible. Donc évidemment, ça donne qu'une envie, c'est de parler un peu plus fort qu'on ne le ferait. Donc nous étions quelques-uns et je m'assume dedans à le faire, parce que c'est vrai que cette injonction à quelque chose comme ça d'insupportable. Et de fait, l'autre soir aux Amandiers, alors certes on nous dit de nous taire seulement à l'entrée de la salle, mais tout le public assis, il se passe, j'ai regardé, 5 bonnes minutes dans un silence absolu avant que ça ne commence. Et donc, il y a cet état qui est peut-être presque contre-productif, parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'il fait ça, Claude Régis. Avant, on rentrait dans la salle et on se taisait, parce que c'était comme ça, il y avait quelque chose qui était ressenti collectivement, mais qui était une sorte de chose désirée par le collectif des spectateurs. Mettre des mots dessus pose problème. Moi, je pense que effectivement, ça, il y a besoin de, quand il en parle Claude Régis, c'est très évident, il y a besoin de se laver de sa journée, d'être dans une disposition. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait la même chose à la sortie. Parce que je trouve que les sorties de théâtre sont très violentes. Non, mais quand on sort effectivement d'un spectacle comme celui dont on va parler dans quelques instants, Rêve et Folie, on a eu des influx ou des impulsions nerveuses, psychiques très fortes. C'est compliqué de se retrouver pour le coup dans le bar des Amandiers à dire tiens, on va boire un verre. Non, on est quand même très perturbé.
Et dans le RER, quelqu'un qui vous dit Monsieur Régis vous demande de vous taire jusqu'à demain matin.
Mais il faudrait peut-être ça. Lucille, comment
il n'y a pas aussi quelque chose de politique, parce qu'en fait, il casse quand même les codes de ce que je disais, quoi. À savoir que le théâtre est un lieu profondément social et bourgeois où on parle de soi, où on parle aux autres. Du coup, c'est vrai que ça isole, ça sort totalement le théâtre de l'action collective. C'est quand même profondément. Enfin, il y a quelque chose d'éthique presque de ce point de vue qui n'est pas inintéressant.
Je crois qu'on peut en débattre longtemps, effectivement, et que on peut y trouver des vertus. C'est vrai que ça casse un ordre quand même de l'habitude. Donc de ce point de vue-là, il réussit son coup. Non, mais on en parlera à propos du spectacle. Il y a toute cette histoire de sas, moi, qui m'a toujours beaucoup intéressé au théâtre et beaucoup intrigué, parce que il y a toujours ce moment de sas. Et c'est vrai que l'idée de faire remonter le moment du sas avant le début du spectacle, je la trouve un peu bizarre. C'est-à-dire que je crois qu'il y a ce moment où on s'assoit, où le noir se fait, et à ce moment-là, selon chacun, il y a toujours un moment qui est de l'ordre du passage. âge. Et ce moment-là, il est vécu intensément par chacun. Et c'est vrai que ça, c'est là qu'il y a cet exercice de solitude que vous évoquiez du spectateur de théâtre, qui est propre au spectateur de théâtre. Ça se passe pas du tout comme ça au cinéma. On n'est pas dans cette espèce de redescente en soi-même qu'on ressent presque physiquement. Au cinéma, on s'installe confortablement. En gros, au théâtre, on s'installe pas confortablement. C'est autre chose. Et donc, voilà. Mais on en parlera peut-être au moment du spectacle, parce que le sas, c'est aussi quand même un des grands sujets de Claude Régis.
Ben, il y avait un sas qui existait, qu'on emploie assez rarement. C'était les trois coups. Finalement, c'est pas mal. Taper trois coups, et on sait que c'est là que ça va commencer. Bon, peut-être proposer ça pour le prochain Claude Régis. Il y aura beaucoup de temps entre chacun des trois coups, non, peut-être.
Hein, dans le hall.
Dans le hall. 3-4 minutes entre chaque coup frappé. On va parler du spectacle de Claude Régis dans très peu de temps. Avant cela, il y a deux autres sujets qui vont être dans notre actualité ce soir. Pour l'instant, donc, on peut remettre nos chaussures et sortir du petit salon. Quelques recommandations, alors très différentes de Claude Régis, mais aussi de Vania d'une certaine façon. Philippe Chevillier, un cabaret. Alors
oui,
là.
Un cabaret à la Comédie Française.
À la Comédie Française.
Voilà, on sort pas de la Comédie Française.
Ça. Serge Bagdasarian.
Alors, le cabaret à la Comédie Française, ça, c'est une histoire assez lointaine, enfin, pas tant que ça, mais qui remonte, je crois que c'est Philippe Meyer qui, il me semble que c'était sur Radio France, faisait chanter les comédiens français. Du coup, ils se sont mis à faire des petits cabarets à la Comédie Française, on y allait au studio en disant, ah, il y en a qui chantent bien, bon. Et puis après, il y a eu des thématiques, donc, c'était Ferré, Barbara, Vian. Déjà, Bagdasarian avait fait un vrai spectacle avec Vian, qui était franchement pas mal. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que, autour de ce sujet interlope cabaret, c'était l'idée de parler, de faire quelque chose sur le cabaret et sur l'homosexualité en fait, et sur ce sas de liberté et que pouvait être le cabaret.
Encore un sas.
Un sas encore, et j'ai pas dit une espèce de sas. Et on se retrouve en fait avec un vrai spectacle qui démarre dans les loges, c'est-à-dire qu'il y a du texte, et on a donc trois générations, puis on a quatre comédiens, on a Serge Bagdasarian qui apparaît totalement aminci, avec une perruque flamboyante, on a Michel Favori qui fait le vieil homosexuel, le vieux travesti, et on a Benjamin Laverne qui fait le jeune, lui qui est marié, qui veut vivre sa vie pleinement et un peu dans tous les sens, et on a la maîtresse de cérémonie, donc qui est Véronique Viala, maîtresse de cérémonie lesbienne, qui va faire un peu tout le fil entre le spectacle et qui raccommode un petit peu entre les gens, qui en même temps qui gère son cabaret avec une main de fer, et on part en fait d'une vision d'un cabaret un peu clandestin, enfin de la d'avant-guerre, etc., à quelque chose de beaucoup plus universel. On tombe dans la revue, et surtout ce qui est très bien dans cette revue, c'est qu'il n'y a pas de à part un petit moment justement où Véronique Vella se moque des chansons homophobes de l'époque qui s'appelait Le Trou du Quai, enfin je vous passe les chansons, elle arrive à chanter un tout petit peu les chansons pour que le public comprenne ce que ces chansons pouvaient avoir d'homophobe. Sinon, sonnet de Shakespeare, Favori qui chante le condamné à mort de Genet, donc avec des musiques qui sont, c'est toujours la même bande, mais qui sont vraiment très très bien de Benoît Urbain. Et c'est assez émouvant. Alors c'est drôle parce que le public parfois est un peu étonné parce qu'il s'attendait justement à avoir des chansons un petit peu du comique troupier, et puis se retrouve avec un vrai sujet de société assez mélancolique, assez, et ils sont extraordinaires tous les quatre. Voilà, donc moi j'ai été bluffé par ce cabaret, et encore un spectacle de Comédie Française qui pourvu que ça dure.
Qui dure d'ailleurs jusqu'au 30 octobre, l'Interlope Cabaret. Un autre type de spectacle avec Cartographie, la place de l'Anthropocène, mise en scène et interprétation, Frédéric Ferrer, c'est au Théâtre du Rond-Point, René Solis.
Alors moi, je vais prendre des risques puisque je vais recommander chaleureusement
un spectacle que vous n'avez pas vu.
Un spectacle que je n'ai pas vu, mais cinq spectacles que je n'ai pas vu.
Allez-y.
Je m'explique. Donc Frédéric Ferrer, metteur en scène, géographe de formation, a installé en 2005 sa compagnie Vertical des Tours dans les cuisines de l'hôpital psychiatrique de Ville-Évrard. Hôpital psychiatrique célèbre dans l'histoire. C'est entre autres Artaud, il a été interné. Mais hôpital psychiatrique aujourd'hui qui est à moitié désert, puisque il y a, je crois que plus de la moitié des bâtiments sont désaffectés. Ouais. Certains sont presque en ruine. Et Frédéric Ferrer a installé finalement sa compagnie dans ce qui est une friche psychiatrique. Dans les cuisines dans les anciennes cuisines. Géographe de formation, il travaille sur à la fois sur ce qu'il connaît, qui a été sa formation, son premier intérêt, la géographie, et aussi, alors évidemment, il faut y voir peut-être une influence de son milieu naturel, c'est-à-dire l'hôpital psychiatrique, sur des figures de la paranoïa. Et donc, le grand sujet de Frédéric Ferrer, c'est le dérèglement. Et c'est le dérèglement climatique, en particulier, c'est un de ses grands thèmes. Il a fait plusieurs spectacles formidables autour des COP. Le premier s'appelait Kyoto Forever. Il en a fait un l'année dernière à Paris, qui était une COP imaginaire, qui était la COP 24, où il racontait l'échec de la COP 24. C'était extrêmement drôle, extrêmement documenté en même temps. C'est-à-dire qu'il est, il a un esprit scientifique. Et je viens à son projet du rond-point. Son mode d'intervention favori, c'est la conférence ou scientifique, ou plus exactement la fausse conférence, c'est-à-dire la conférence qui déraille. Et à partir de là, il crée quelque chose qui est extrêmement cohérent entre la forme et le fond, c'est-à-dire que il parle du dérèglement et il en parle de façon déréglée. Voilà. Et ça, c'est absolument, moi je trouve ça formidable, je trouve que c'est un projet formidable. Alors je vous lis juste, il y en a cinq, hein, cinq conférences.
Les titres,
alors je vous lis le résumé de la première.
Si vous voulez.
À la recherche des canards perdus. En septembre 2008, la NASA lâche 90 canards jaunes en plastique dans un glacier du Groenland pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique. Attendu quelques semaines plus tard dans la baie de Disco, les canards ne réapparaissent jamais. Où sont passés les canards? Sont-ils prisonniers du glacier? Sont-ils déjà sortis? Et à partir de là, donc j'ai pas vu.
Ça commence demain à Paris.
Je pense que ça fait envie.
Ah bah oui.
Et que voilà. Et donc il fait ça. On sait jamais à quoi s'en tenir. On sait jamais s'il est sérieux ou pas. Il est toujours cette espèce de fil. Et c'est un artiste, je trouve, qui est formidable.
Les cartographies de Frédéric Ferrer du 4 au 23 octobre au Théâtre du Rond-Point à Paris. Puis une grande tournée est prévue qui ira de Montluçon à Marrakech, de Oullins à Lyon, de Châtenay-Malabry à, qu'est-ce que je pourrais dire, Château-Arnoux, Ségret, Château-Gontier, Villeneuve-d'Ascq, Armentières, ça ils connaissent aussi les hôpitaux psychiatriques, et puis Maubeuge et encore Joinville-le-Pont. Beaucoup de dates jusqu'au mois de mai 2017 pour ces cartographies.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et nous poursuivons donc cette dispute consacrée ce soir au spectacle vivant, avec le nouveau spectacle présenté par Claude Régis, né en 1923, rappelons-le, qui continue à défricher le langage théâtral de façon toujours plus radicale, étrange, surprenante aussi. C'est aux Amandiers, théâtre de Nanterre, dans le cadre du festival d'automne, que le metteur en scène propose de nous faire entendre quelques pages de Rêve et Folie, un texte de Georg Trakl dans une traduction de Marc Petit et Jean-Claude Schneider, seul en scène, dans une scénographie minimale qui évoque aussi bien la voûte d'un pont, un scanner, une grotte. Yann Boudot, l'interprète, va déplier son corps comme il déplie les phrases de Georg Trakl. Toujours en mouvement, toujours en suspension aussi, ça fait partie des miracles ou de l'étrangeté de ce spectacle. Un peu moins d'une heure de représentation, alors pas d'extrait à la radio, mais ça c'est un souhait déjà très ancien de Claude Régis, et là pour le coup on le comprend bien, ça n'aurait quand même pas grand sens de faire entendre un extrait sonore. René Solis, pour commencer à en parler, alors peut-être aussi dire que Georg Trakl, donc cet autrichien poète mort à 27 ans au front en 14, il était déjà engagé dans l'armée avant que la guerre ne commence, mais les premières semaines du conflit sont dures. Il est pharmacien, soldat, et donc il se réserve les plus grosses doses de cocaïne et il meurt d'une overdose. pour dire
dans
un peu
les tranchées.
Dans les tranchées.
Il était infirmier, par ailleurs.
Infirmier-soldat, absolument. Soldat. Ouais, ouais. Ouais,
oui, alors, Trackle-moi, c'est un nom que je connaissais, mais je ne connaissais pas, voilà, je crois que je n'avais jamais lu la poésie de Trackle. Donc, première révélation, c'est absolument magnifique.
Ah,
une fois
c'est
de plus,
terrible.
Il sait aller les chercher, les textes, hein, Régis, c'est pas n'importe quoi. Et ça, le poème, il fait 7 ou 8 pages. Il est
Trackle,
magnifique.
Je vous ferai remarquer qu'on en parle dans 2666, vous savez, de Roberto
c'est
Bolaño.
Vrai. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que je l'ai lu pour autant.
Non, mais c'était un petit clin d'œil. Ce spectacle que vous avez tant aimé. Donc, Trackle.
Poème magnifique. Alors, poème qui commence, et ça m'a frappé, c'est le début, par « La mort du père ». C'est, je crois, le premier vers du poème. Et la mort, on va évidemment en parler, parce que c'est le grand sujet de Régis, du théâtre de Régis, etc. Mais cette histoire de mort du père, c'est pas forcément si fréquent. C'est-à-dire qu'on a plutôt l'impression, le sentiment que c'est plus souvent la mort des fils. C'était le cas des deux précédents spectacles, des trois même, puisque c'est le cas d'Intérieur de Maeterlinck, où il y a la mort de l'enfant. Et
La
barque le soir et le... Comment s'appelait l'autre ?
Ah ben j'oublie tout à chaque
fois. La barque le soir et Brume de Dieu, pardon, ça y est. On l'a quand même, les deux spectacles de Tergiev et Vessaras, c'était aussi plutôt la mort des fils, la mort des jeunes. Et donc là, il y a quelque chose qui, d'emblée, change un peu la donne. Ce qui est très frappant, c'est qu'à la fois, on pourrait dire c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes façons de procéder et de façon extrêmement lente, tout le travail sur le silence, la tension extrême, les lumières, les noirs très profonds, les lumières extrêmement basses. Et en même temps, à chaque fois, on peut dire qu'il renouvelle quelque chose. C'est-à-dire que on ne sait jamais exactement ce qui va se passer. Et une fois de plus, il se passe des choses voilà qui sont de l'ordre du presque de l'intime profond de chacun, c'est-à-dire que à un moment ou à un autre, et je crois que quelle que soit sa position pendant le spectacle, on est confronté à quelque chose auquel on s'attend pas, qui peut être du rejet. Ça peut passer par du refus, ça peut passer par de l'agacement, ça peut passer par de l'ennui, mais ça peut aussi passer par des émotions soudaines extrêmement profondes, brutales presque. Mmh. Tout d'un coup, on peut être pris comme une espèce je ne sais pas si c'est une révélation, mais comme une espèce de jet de lumière, alors même que tout est sombre, tout d'un coup quelque chose se révèle. Ça peut être quelque chose du texte, tout d'un coup on en entend comme ça, ce texte qui est difficile à comprendre, parce que il est le poème lui-même, il est extrêmement éclaté, on comprend des choses, mais dire ce que ça raconte vraiment, c'est très difficile. Et par moments, tout d'un coup, c'est lumineux. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une image et on est tout d'un coup dans une compréhension absolue et presque surnaturelle des choses. Et donc, il y a cet état dans lequel il parvient toujours à mettre les spectateurs, Régis, qui est un état d'incertitude et de surprise, et voire de fascination ou de stupéfaction. Voilà. Et là, encore une fois, ça fonctionne.
Et puis, dans le fait d'entendre et de comprendre ce texte, vous ne l'avez pas évoqué, mais il y a toujours ce travail, enfin, et de plus en plus ce travail que demande Claude Régis à ses interprètes, et Yann Boudot, qui le retrouve ici, d'une lenteur, pour dire ça vite, mais c'est autre chose que de la lenteur, mais c'est vrai que ce sont 4 pages, 5 pages que j'ai sous les yeux, qui ne sont pas très longues, ça dure quand même 50 minutes, c'est un texte qui, s'il était lu comme ça par vous et par moi, très, très rapidement, je ne sais pas, ça dure 10 minutes.
Oui.
Et cette lenteur-là, évidemment, elle permet, mais je vais laisser la parole à Philippe Chevillier, ces mots sont comme des projectiles parfois, c'est vrai qu'ils vous arrivent comme des éclats et que d'un coup on entend, peut-être on entend parfois seulement une partie d'une phrase, mais qui va vous frapper d'une façon très particulière parce qu'elle a justement été détachée dans le travail de direction et de diction. De fait, elle vous arrive d'une façon plus forte ou elle peut complètement vous passer à côté. Philippe Chevillier.
Bien, moi, oui, j'étais aussi transporté par ce spectacle. Alors je le dis d'autant plus facilement et d'autant mieux que j'ai été longtemps réticent, moi, avec Claude Rigy, parce que justement, le côté cérémonie dont on parlait tout à l'heure, même si je défendais un petit peu le silence patent, mais ça veut dire que je suis converti finalement, le phrasé était si particulier, et je trouvais qu'il y avait une forme de maniérisme là-dedans. Et puis, petit à petit, et rétrospectivement d'ailleurs, par rapport à des spectacles que j'ai vus, je me suis rendu compte vers quoi ça menait. Et je vois pas du tout maintenant du maniérisme chez Rigy. C'est vraiment cette volonté d'aller le plus loin possible avec des textes, avec des mots. Et ce qui est formidable, on parlait de Sas tout à l'heure, c'est sans avoir recours au silence, cette façon, par l'apparition du décor, qui est cette forme qui peut nous emmener un petit peu n'importe où. On peut parler effectivement de caveaux, de grottes. Moi, j'ai vu aussi une espèce de station spatiale un petit peu qui flotterait, désaffectée dans l'espace.
Et je pensais au tunnel d'Orange Mécanique aussi.
Il y a ça aussi. Mais du coup, on est déjà dans une autre dimension. Et quand on le voit arriver Yann Boudot et qui comme flottant dans l'espace, on est déjà prêt à entendre autre chose que qu'une déclamation classique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce texte, quand on le relit, qui est très beau, je trouve, qui est énigmatique, mais c'est un texte poétique que finalement on arrive à maîtriser quand il est joué par Boudot. C'est chaque mot est détaché l'un de l'autre, et parfois, c'est ce que vous suggériez tout à l'heure, on ne sait plus très bien quel était le début de la phrase et même le mot d'avant. Et je pense que chaque spectateur, comme disait René, on a des mots qui nous parlent. Moi, j'ai des mots qui m'arrivent sur les mots pierre, les mots squelette, les mots. Il y a le côté rimbaldien moi qui me plaît beaucoup. Il y a le côté, par moments, il y a un petit côté Edgar Poe pour moi aussi. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Et en fait, on a l'impression que chaque spectateur se compose son propre poème en écartant certains mots, et on est à chaque fois emmené quelque part de différent, et à la fin, donc, ça fait quelque chose d'assez organique, parce que on a d'un côté tout fusionne entre l'obscur, non pas le clair obscur, mais l'obscur, et le texte et le phrasé, et on a vraiment une sensation qui est assez inouïe, et voilà pourquoi je suis converti.
Mais ce qu'on entend ou ce qu'on perçoit, on l'a peut-être pas encore vraiment dit, c'est quand même quelque chose. Alors, ça s'appelle Rêve et Folie. On est plutôt dans le cauchemar et dans la folie parfois furieuse. Ça nous emmène quand même vers des abysses d'une terrible noirceur. On est quand même sur des questions à la fois de mort, à la fois, donc, cet amour pour cette petite sœur, donc dans une dimension d'inceste, mais donnée avec une crudité, enfin, quelque chose que j'ai rarement entendu, une telle violence d'expression, hein. C'est pas du tout des mots orduriers, mais c'est vraiment une violence qui est celle de la littérature, qui est celle de la poésie, et qui, effectivement, quand vous entendez par moments de quoi ça parle, ça vous glace les sangs. Moi, j'ai pensé vraiment, en découvrant ce spectacle, que Claude Rigy avait inventé le théâtre d'horreur, comme on peut dire un film d'horreur. C'est vraiment des sensations qu'en tout cas, moi, j'ai éprouvées à l'écoute et à la vision de ce spectacle, qui m'ont plongé dans des endroits vraiment d'un noir absolu, d'un noir du mal, de la douleur, de l'interdit, que ce texte de Trakl charrie tout ça, qui nous est donné ici dans une violence très forte. Je vois Lucille Comeau prendre des petites note, alors je vais lui donner la parole aussi avant de revenir vers René Solis.
Non, mais alors, moi, je vous envie d'avoir entendu le texte, parce que déjà, je n'ai pas entendu ce texte du tout. Après, j'ai lu la Bible, donc j'ai un peu compris de quoi il s'agissait. Alors, en effet, j'ai beaucoup
la
entendu
Bible,
les mots pierre.
Le petit programme du spectacle,
fait,
hein, pas le, non, l'ancien et le Nouveau
non,
Testament.
Non, mais remarquez, pourquoi pas.
Avec Régis, il l'a déjà fait. On a eu quelques psaumes traduits par Méchonique.
Non, mais je suis vraiment restée extérieure. Et c'est vrai que le problème d'un sas, justement, vous le disiez, René Solis, c'est que si on est à l'extérieur, on est vraiment à l'extérieur.
Moi, ça m'a été le cas pour Brume de Dieu.
Voilà, j'étais totalement à l'extérieur. Et puis, c'est vrai que je trouvais la diction extrêmement agaçante, donc c'était très difficile et pénible pour moi. Et puis cette manière d'insister sur certaines syllabes, sur certaines, bon, vraiment les mots pierre, et puis du coup tous les R qui s'en suivent, quelque chose d'un peu scolaire aussi, de la même manière qu'on nous demande de nous taire, on nous assène, c'est de la poésie, c'est un texte poétique. Je trouve ça assez désagréable.
Bon, vous avez passé une mauvaise soirée, Lucie,
assez, j'ai trouvé ça très long, alors que c'est vrai que c'est un spectacle court, et vraiment assez agaçant, oui.
Bah, j'avais vécu la même chose, et j'en avais parlé ici, avec Brume de Dieu, mais alors, tout dépend de la journée que vous avez passée avant, de la qualité du sas. Non, mais c'est vrai, tout ça joue, hein. Moi, j'en avais témoigné, et je ne dis pas que j'ai tout entendu le soir où je l'ai vu, hein, encore une fois, il n'y a pas de problème à le dire. Alors, ne rien entendre, c'est un autre problème. Moi, je n'ai pas tout entendu, mais ça agit en moi. René Solis ?
Oui, moi, je comprends très bien ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'on peut effectivement rester complètement à l'extérieur, et à ce moment-là, ça devient très pénible. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je
Ça peut nous arriver à tous.
Ça peut nous arriver à tous. Je peux en vouloir à personne de ça. Mais on est en plein dans cette histoire de ça, c'est de ça. Ce qui fait peur aussi. Et vous avez raison aussi, Arnaud, de dire que ça fait peur. Finalement, ce ça, ce seuil, ce tunnel, il est ouvert, il devrait pas l'être. Et il est ouvert vers quoi? Il est ouvert vers la mort. C'est toujours c'est ça le théâtre de Régier. C'est cette espèce d'idée que le théâtre, c'est l'endroit où on communique avec la mort. C'est ce seuil-là qui est toujours à l'œuvre. Donc il est terrifiant. Alors il est terrifiant et on peut se dire, oulala. Et effectivement, le refuser complètement, et c'est presque normal. Je veux dire, je trouve pas normal qu'on adhère au théâtre de Claude Régis comme ça. Enfin, je veux dire, et en même temps, ce qui est très frappant, c'est que finalement, tout son théâtre depuis, on va dire, les 20 dernières années, c'est ce théâtre-là sur le seuil. On peut dire qu'il a toujours tendu vers ça. Et qu'en même temps, il y a quelque chose qui devrait être de l'ordre de l'apprivoisement, quelque chose plutôt d'un effet d'apaisement. Et en fait, ce qu'il en ressort quand même, c'est plutôt, oui, la terreur, la noirceur, oui. L'inverse. Et c'est très frappant.
C'est donc, toujours pire.
Et donc, vous n'avez pas tort de dire qu'il y a un côté théâtre de l'horreur comme ça. Alors, en même temps, comme il le maîtrise avec la lenteur, avec tout ça, il y a quelque chose qui reste très beau. Mais il y a quelque chose, oui, qui est fondamentalement effrayant. C'est vrai.
Dernier mot, Philippe Chevillier.
Oui, moi, en tant que fraîchement converti presque, j'ai ressenti ça à une époque. Mais là où je suis pas d'accord sur la poésie, c'est que c'est pas lu comme un poème, justement, parce que il est presque cassé le poème à partir du moment où chaque mot est mis un peu en exergue. Mais c'est vrai que c'est un phrasé très particulier et que après, quand on arrive à se laisser porter et à plus trop se poser de questions, on arrive à mon avis à des sensations qui sont peut-être plus de l'ordre cérébral parfois qu'au niveau du cœur et des tripes, mais qui sont, à mon avis, très, très, très passionnantes et très bouleversantes.
Essayez d'aller découvrir par vous-même Rêve et Folie, ce texte de Gerd Trakl, mise en scène de Claude Régis, interprété par Yann Boudot. C'est à Nanterre, amendé jusqu'au 21 octobre, dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Il y a une tournée, 17 au 19 novembre, au Théâtre National de Toulouse, 6 au 8 avril à la Comédie de Caen, du 3 au 7 mai à la Comédie de Reims. Et avant de conclure cette émission par un coup de fil passé à Stéphane Caegui, le jeu de la dispute, on commence par un rappel du jeu de vendredi soir, Lucille Comeau, pour en connaître la réponse.
Alors voici la question. Aymeric Luisset a photographié les ruines d'une cité antique en Mésopotamie nommée Girsou. Riche cité, haut lieu religieux, de quelle province était-elle la capitale?
Et la réponse est
Lagash.
On fait gagner ce soir des invitations pour l'exposition Yann Fabre, Stigmata, Action et Performance 76-2016. C'est jusqu'au 15 janvier au Musée d'Art Contemporain de Lyon. La question, Lucille?
Alors, en 2012, Yann Fabre, connu pour ses provocations, doit présenter ses excuses à des associations de défense des animaux. Quelles pratiques les avaient choquées?
Votre réponse et vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Place à présent au coup de fil de Lucille Comeau.
Et le coup de fil ce soir va dans le Nord. La scène nationale s'appelle Tandem et rassemble plusieurs lieux à Arras, à Douai et dans les environs. Elle consacre cette année un de ses temps forts au collectif allemand Rimini Protocol. Stéphane Caegui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un des trois membres de ce collectif Rimini Protocol, dont on a déjà vu en France quelques spectacles, qui travaille le réel de très près, souvent ambulant ou du moins en mouvement, avec des dispositifs particuliers qui amènent les spectateurs à rencontrer activement des personnes qui ont des choses à leur dire. Alors vous jouerez ce soir et demain Situation Rooms, un spectacle qui avait déjà tourné, notamment à la Villette à Paris, un spectacle déambulatoire. Est-ce que vous pouvez nous décrire le dispositif ?
Situation Rooms, c'est un essai de vouloir comprendre le trafic des armes globalement. Alors on a choisi 20 personnes qui ont travaillé avec ça, soit-il que ce sont des producteurs des armes, des vendeurs des armes, des soldats ou des victimes ou des médecins qui ont filmé avec nous des films. Et on suit ces films à travers un bâtiment que scénographe Dominique Huber a construit suivant les biographies de ces personnes. Alors, on s'immerse pour un moment dans le bureau d'un vendeur de missiles. Après, on sort par la porte en suivant le vidéo et on entre dans un hôpital mobile d'un médecin sans frontières à Sierra Leone. Et comme ça, chaque 7 minutes, on s'identifie, on se met dans la peau d'une autre personne qui a vécu avec les armes toute sa vie.
En fait, il y a quelque chose d'un travail documentaire que vous faites avant même de mettre en place les spectacles. Comment est-ce que vous avez mené ce travail-là? Et surtout, comment est-ce que vous avez convaincu ces différentes personnes de vous parler sur la question qui est quand même compliquée du business des armes?
Oui, c'est assez facile de trouver des gens qui sont des victimes réfugiées, il y en a beaucoup. C'est facile de trouver des gens de Amnesty International qui veulent raconter ce qu'ils trouvent qui est le problème de l'exportation. Mais pour nous, c'était très important d'avoir aussi des politiciens qui prennent des décisions qui sont peut-être pas tellement politiquement correctes d'un point de vue de quelqu'un qui est dans le monde du théâtre et de parler avec des gens des entreprises d'armes. Ça, c'était beaucoup difficile, mais après avoir beaucoup insisté, on a quand même trouvé des gens qui, des fois, sous pseudonyme, ont été d'accord de partager avec nous leur vision.
Je parlais de documentaire. Est-ce que ce genre de théâtre de documentaire, ce mot-là, ça vous convient à décrire ce que vous faites au Rimini Protocol, Stéphane Kaegi?
Il y a certainement un grand intérêt, oui, de utiliser le moyen du théâtre pour raconter des vraies histoires et notre départ et pas la littérature. Mais après, on fait les gens interagir, on les invite à participer des projets d'une forme beaucoup plus interactive qu'un classique documentaire dans le cinéma le ferait. Il y a même des fictions là-dedans, dans des histoires, parce que si on parle d'une biographie, je sais pas à la fin si, par exemple, le assassin mexicain qui participe dans Situation Rooms nous a vraiment raconté toute la vérité sur son histoire, mais on se base sur son témoignage quand même, qui est une vérité aussi, mais c'est peut-être pas une vérité objective, comme dans le journalisme, on sait jamais jusqu'à quel point on peut croire. C'est pas que nous écrivons un texte et après, il y a un comédien qui est expert de faire semblant d'être une autre personne. Ce sont des gens alors qui parlent à leur manière aussi, c'est qui viennent avec un langage spécifique, qui viennent avec un comportement spécifique, et c'est ça la immédiateté de ce contact qu'on a avec les protagonistes.
Alors dans quelques semaines, on pourra voir un autre spectacle qui sera lui au théâtre de Douai, Narlas, ce sera la première française de ce spectacle, un travail qui interroge la représentation de la mort de manière très intime, puisque les personnes qu'on rencontrera étaient toutes proches de la mort quand vous les avez rencontrées. Là encore, est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement comment fonctionne le spectacle, Stéphane Kaegi?
Cette fois-là, on n'interagit pas avec des vidéos, mais on s'immerse aussi dans des espaces complexes. Ce sont des espaces où on écoute, où on trouve des objets de ces personnes qui sont en train de décider qu'est-ce qu'ils veulent laisser derrière eux, qu'est-ce qui est son legs ou son héritage, qu'est-ce qui va rester dans le monde. Alors le processus de production, c'était un peu pareil avec ce jeu qu'on joue comme enfant, de s'écrire une lettre qu'on va lire dans le futur. Là, ils ont enregistré des choses qui s'adressent très directement au spectateur qui va être le monde après eux.
Un grand merci à vous Stéphane Kaegi. Donc le premier spectacle s'appelle Situation Rooms. Il faut se précipiter pour voir la dernière demain à Somain. Il y a des navettes depuis Douai et Arras. Et puis à quelques kilomètres au théâtre de Douai, on pourra découvrir Narlas. Ce sera du 22 au 27 octobre. Et puis il y aura un troisième spectacle aussi dans la région, Top Secret International. Ça, ce sera au mois de mars. Merci.
Merci à vous.
Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Lucille Comeau, Philippe Chevillier et René Solis. Merci à l'équipe de la dispute, Daniel Finot, Virginie Ledio, Josué Morel et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Stéphane Poitevin. Réalisation signée Daniel Finot. Je vous retrouve demain à 21h pour une dispute consacrée. Ce sera une première, enfin véritablement une première aux séries télé. En compagnie d'Iris Bray, Romain Burel et Antoine Guillot. À notre affiche Transparent, la série de Jill Soloway. Loin de chez nous, de Fred Scotland, Better Things de Pamela Adlon et Louis C.K. et High Maintenance de Ben Sinclair et Katia Blichfeld. Tout cela, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15, les discussions du soir. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.